Genèse. Genesis 22. On a des visiteurs qui sont ici du Connecticut et ils vont avoir une expérience de immersion française complète. J'aurais dit à quelqu'un, peut-être vous aider. Ils disent, non, on va prendre l'immersion. Donc, pas sûr qu'ils vont tout comprendre, mais c'est pas grave. Amen. Content que vous soyez là, tout le monde. Comme je le disais ce matin, c'est un passage bien connu, un passage d'Écriture bien connu. Oh, mais qu'il ne soit pas familier, qu'il ait toute sa fraîcheur et sa beauté pour nous ce matin. On va commencer en lisant seulement les versets 1 à 5. On va pas mal se concentrer là-dessus pour une bonne partie du message, mais on va aller plus loin aussi. Donc, dans Genèse 22, les 5 premiers versets, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âme, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Seigneur, merci qu'on a un temps comme ça que tu nous donnes ensemble. Ça aussi, on ne veut pas le prendre pour acquis, c'est précieux. On est assis, ton peuple, à t'écouter, c'est toi qu'on veut entendre, c'est toi qu'on a besoin d'entendre. Merci que tu es personnel, tu es vivant. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Donc, Seigneur, c'est avec reconnaissance et confiance qu'on s'approche de toi, sachant que, Seigneur, tu veux nous bénir. Oui, on veut te bénir du fait que tu es le Dieu pourvoyeur, mais merci que aussi, toi, tu veux te donner à nous ce matin. D'une façon extraordinaire, personnelle et merveilleuse. On s'attend à toi, Seigneur, pour ce que tu as pour nous. Chacun est comme Église, au nom de Jésus. Amen. Oui, ce texte, non seulement il est connu, mais il est riche, il est significatif. Il nous montre un homme de Dieu qui bénit son Dieu en priorisant sa volonté, la volonté de Dieu, au-delà de tout ce qui est terrestre. Vraiment, c'est quelque chose d'assez spécial. C'est l'obéissance de la foi qui se donne à la forme la plus élevée d'adoration. Il bénit son Dieu. Il l'adore, il le loue, il lui rend grâce. Trois manifestations d'une vie centrée sur Dieu. Et ça, mes amis, ce n'est pas circonstanciel, mais c'est dans toutes les circonstances, les événements, les hauts et les bas d'une marche, d'une vie par la foi. Et c'est ce qu'on va considérer ensemble. Et on va le considérer aujourd'hui avec la vie d'Abraham. Vous savez pourquoi? On va le faire avec les trois grands patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. Parce que, pour ce qui me concerne, il y a trois messages que je vais prêcher dans le mois d'août, si Dieu le veut. Et donc, un pour chaque. Et c'est spécial parce que cette expression-là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça revient plusieurs fois, à plusieurs reprises dans la Bible, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau, plus dans l'Ancien. Environ 12 fois, on voit cette expression dans la Bible, qui est utilisée comme une formule qui résume la fidélité de Dieu envers son alliance et qui révèle son identité. « Je suis ce Dieu-là ». Et en relation avec ces trois patriarches qui sont ceux à qui, dans le fond, les promesses de la rédemption en Jésus ont été faites. Et les références majeures là, qu'on retrouve sur cette expression « le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob » peuvent se résumer ainsi. D'abord, c'est la façon que Dieu lui-même s'identifie. « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». C'est ce qu'il dit à Moïse dans le buisson ardent dans Exode. C'est aussi le nom qu'il prend pour référer à son alliance, puis aussi à la terre promise, que les deux sont imbriqués. Et ça, c'est là qu'on voit le plus de références à ça, sur cette alliance, ce serment que Dieu a donné concernant Canaan. On voit ça dans Genèse, dans Exode, dans Lévitique, dans Deutéronome et dans Deux Rois. L'expression utilisée dans ce sens-là. C'est aussi des fois une façon de prier dans une prière publique d'invocation à ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le prophète Élie utilise cette formule et le roi David aussi réfère de cette façon à Dieu lorsqu'il prie dans 1 Chronique 29. Dans le Nouveau Testament, Jésus a utilisé cette expression pour parler de la résurrection. On va voir si c'est significatif ici, parce qu'il y a de la résurrection dans notre chapitre d'aujourd'hui. Donc, Jésus qui dit que Dieu est le Dieu des vivants, hein, en employant Abraham, Isaac et Jacob, en disant que pour lui, tous sont vivants. Okay? On a ça dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. C'est quand même pas sans importance. Et aussi, Jésus utilise cette expression pour référer aux patriarches qui font partie intégrante du royaume des cieux. Okay? C'est comme un même royaume avec ces patriarches-là qui en font aussi partie. Okay? Puis même au début de l'Église, dans le livre des Actes, dans le chapitre 3 et dans le chapitre 7, l'expression est utilisée par les apôtres et par Étienne pour invoquer ce nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour le connecter. Hein? Le Dieu de l'Ancienne Alliance est le même que de la Nouvelle. Ce n'est pas une dichotomie, ce n'est pas comme une nouvelle chose. Non, c'est la continuité. Okay? Donc, c'est une expression qui est riche. Ce n'est pas le titre, c'est pas le but de mon message aujourd'hui, mais vu qu'on commence à parler de ces choses dans le mois d'août, ben, je voulais un peu vous donner le topo là-dessus. Et toutes ces références nous amènent à bénir le Dieu pourvoyeur. Parce que ça nous rappelle que Dieu a pourvu tout le long de l'histoire, tout le long de l'histoire de la rédemption. Et ultimement, il a pourvu son propre fils, qui ici est une préfiguration dans Genèse 22. Et donc, as-tu reçu la provision ultime de Dieu, Jésus-Christ? Est-ce que tu bénis ton Dieu sans cesse pour Jésus-Christ? Est-ce que tu as la libération du fait d'avoir reçu la provision de Dieu? Parce que il y a une libération du fait de aussi, même pour un enfant de Dieu, de garder les yeux plus loin que nos circonstances, nous-mêmes, les autres, mais sur Dieu lui-même, le Père qui a béni l'humanité, ses enfants, en donnant son Fils. Et pour nous, c'est simplement de se rappeler ça, de revenir à ça constamment pour bénir le Dieu pourvoyeur. Fin de mon introduction. On va voir deux réponses ici à la foi qui bénit le Dieu pourvoyeur avec notre cher Abraham. Deux réponses. Première réponse, la réponse immédiate. Regardez ici notre texte au verset 2. Dieu dit, ok, là il s'adresse à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il n'y a vraiment pas d'ambiguïté. Là. Isaac, il nomme c'est qui. Ça fait que ce n'est pas Ismaël, c'est vraiment Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Wow! C'est un commandement très clair de la part de Dieu. Sans équivoque, il y a du... Pour moi, Abraham a fait « Ouch! C'est quoi que Dieu me demande là? » Mais en fait, il faut comprendre, c'est pas juste une demande comme ça capricieuse. En fait, on sait que ça amène ultimement à Jésus puis tout ça, mais pour Abraham, là, qui n'avait pas toute la fin de l'histoire comme nous, il se fait demander de donner celui qui est le fondement même de l'alliance que Dieu avait contracté avec. C'est comme si Dieu tirait l'alliance par la fenêtre. C'était vraiment spécial comme demande. Dieu lui-même qui avait contracté une alliance lui demande, en essence, d'être prêt à la briser, si c'était possible. Et oui, c'était le test ultime de la foi d'Abraham, de sa loyauté, mais surtout, et là, manquez pas, parce que l'histoire, c'est jamais au sujet des personnages, c'est au sujet du Dieu de ces personnages. Donc oui, il y avait un test de foi, mais surtout, c'était la démonstration de la fidélité, de la loyauté indéfectible de Dieu envers ses promesses. Parce que ça ne pouvait pas arriver qu'Isaac y meure. Donc, ça veut dire quoi aussi? C'est une révélation du Dieu de la résurrection. Manquons pas toute l'image de la résurrection là-dedans, parce qu'on apprend dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 11, qu'Abraham, là, quand Dieu il parle comme ça, là, qu'est-ce qu'il pense dans son cœur? C'est le fond, on a une explication inspirée de ce qui arrivait dans le cœur d'Abraham. Ça nous dit d'Abraham dans Hébreux 11, 19, « Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, que même s'il faut qu'il meure, mon fils, Dieu va le ressusciter. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment ici la vérité, la doctrine de la résurrection qui est tellement importante ici à comprendre, parce que c'est ce qui a poussé Abraham à dire, OK, c'est beau, parce que quand même que ça virait au pire, c'est pas la fin. Son espérance était dans le Dieu de la résurrection, comprenez-vous? Puis on va revenir sur ce verset-là tantôt. J'ai juste dit la première moitié, je vais revenir sur la deuxième moitié tantôt. OK, donc, il y a une révélation ici du Dieu de la résurrection qui est le fondement réel de la foi d'Abraham, la personne et la puissance de Dieu, celui qui est le Dieu qui peut ressusciter les morts. Donc ça, c'est par rapport au commandement de Dieu, mais on continue avec les versets 3 à 5 qui sont très intéressants parce que là, Abraham, voyons sa réponse, la réponse immédiate. Il se leva, on ne voit pas 3-4 versets sur les raisonnements, les arguments d'Abraham, comme il a pu avoir avec Moïse, non. Dieu a dit, il se lève puis il va. C'est déjà quelque chose. Il se leva de bon matin, sella son âme et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. On va décortiquer ça ensemble. La réponse d'Abraham. En passant, là, la réponse d'Abraham, c'est pas parce qu'il comprenait tout puis que ça avait une logique à ce que Dieu demandait puis que c'était raisonnable. En fait, la réponse d'Abraham, c'est, ça vient du fait que c'est à cause que c'est Dieu qui le demandait qui répondait lui-même. OK? La source du commandement, c'était ça l'important. C'était pas la logique du commandement, c'était pas tout le raisonnement qui va être. Non, c'est qui te demande de faire ça? Ça règle la question. OK? C'est ça la clé d'une réponse immédiate. Si Dieu le dit, ça règle la question en partant. Et ça a produit deux qualités à sa réponse. OK? D'abord, on voit l'action qui surmonte les émotions. Parce qu'on ne va pas se faire de croire, là. Puis qui surmonte aussi la peur. L'anxiété, la peur a dû le prendre. Je ne pense pas ici là, que, même si ce n'est pas explicite dans le texte, que Abraham n'est pas passé par toutes sortes de tumultes intérieurs, là, de se demander qu'est-ce que ça veut dire et tout. C'est pas parce qu'il obéit qu'il y avait zéro peur puis zéro lutte dans son cœur. OK? Mais on voit clairement, d'après le verset 5, que la disposition spirituelle d'Abraham, qui croit, Abraham le croyant, c'est qu'il était certain que les deux allaient revenir. Il a dit, nous reviendrons. Pour lui, c'était réglé. On va revenir. Comme je l'ai dit, il y avait l'espérance de la résurrection. Et comme j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des peurs et des doutes, mais il ne vivait pas non plus dans le déni de ses émotions et de ses peurs, mais il a agi par la foi en dépit de celles-ci. Et c'est ça que Dieu nous demande. Dieu ne nous dit pas, hey, tu n'as pas à avoir jamais peur, tu n'as pas à douter, il faut tout le temps que tu sois au-dessus de la mêlée, puis là, tu vas être quelqu'un de foi. Non, c'est du sein de ces doutes, de ces peurs, de ces choses que tu peux vivre, du tumulte intérieur. Fais-moi confiance au-delà de ces choses. Je suis le Dieu de la résurrection. Je suis le grand Je suis. Et donc, ses yeux spirituels sont restés sur Dieu. Parce que oui, il était certainement brassé dans toutes ses attentes et ses perceptions. C'est pas dans le texte, mais je pense que ça serait raisonnable de penser ça. Maintenant, parlons un peu de garder les yeux sur Dieu. Vous connaissez Hébreux 12:1 et 2, spécialement au verset 2, ça dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi », où notre version dit « qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection ». Regarder à Jésus, c'est regarder à Jésus au-delà de ce qu'on peut ressentir, de ce qu'on peut vivre, des circonstances, OK? Par exemple, regarder à Jésus ma récompense lorsque rien ne semble aller, lorsqu'on ne dirait pas qu'il y a de récompense à ma foi. Regarder à Jésus ma vie lorsque la mort, je sens le poids et je vois qu'elle m'entoure de part et d'autre. Regarder à Jésus ma paix lorsque le tumulte devient insupportable. C'est ça, regarder à Dieu. C'est pas parce qu'il n'y a pas des problèmes qui sont là, c'est voir celui qui est au-delà, qui est plus grand que ses problèmes. Donc, ce n'est pas du déni, ce n'est pas vivre avec des lunettes roses, de tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est plutôt acquiescer la réalité, la dure réalité, en voyant et en considérant celui qui est plus grand que ces choses, qui est au-dessus de ces choses, celui qui a un nom qui est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de toutes les principautés, de toutes les puissances qu'il peut avoir contre nous autres. Et ça, Abraham avait cette disposition-là de voir au-delà de ce qui frappait l'œil, et ça lui a donné l'attitude qu'on voit ensuite. Non seulement il croyait qu'il allait revenir les deux, mais aussi il allait là en adorant. Il dit à la fin du verset 5, « Nous irons jusque-là pour adorer. » Il recherchait l'adoration. Abraham ne recherchait pas avoir toutes les réponses à ses questions. Il recherchait celui qui est la réponse à toutes ses questions. Abraham ne recherchait pas à rencontrer ses besoins, mais à rencontrer celui qui est la réponse à tous ses besoins. Abraham recherchait Dieu et recherchait à l'adorer. C'était ça son but. Son but, ce n'était pas de résoudre ses problèmes. Ça, c'est quelque chose. Pensez à ça pour notre approche de la vie. Souvent, on a des problèmes, qu'est-ce qu'on veut? On veut les régler. Puis Dieu dit, non, moi, mon but premier avec toi, ce n'est pas d'être ton règleur de problèmes. Je veux me révéler à toi, je veux me manifester. Puis fais-toi-en pas, quand je me montre, quand je me manifeste, ça règle bien des problèmes que tu n'aurais même pas pensé qu'ils étaient là de toute façon. Parce que si tu penses que ton problème, ce n'est pas ton vrai problème. Ça, c'est quelque chose, là. C'est gros, là. Rechercher l'adoration, c'est rechercher Dieu plus que tout, le reste. Et n'est-ce pas notre tendance humaine de rechercher des solutions quand on a des problèmes? Je veux dire, on est guéri de même, pour prendre une belle expression québécoise. Ça, cette bout-là, ils vont comprendre. Je pense pas, là, ils me regardent avec un peu les yeux vides, là. Comment on dit ça, donc? En tout cas, whatever. Non. Rechercher Dieu, rechercher l'adoration, c'est surnaturel. C'est typique des enfants de Dieu, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ceux qui sont de la Nouvelle Alliance, qui sont enseignés de Dieu. C'est pas la meilleure des religions. Non, c'est surnaturel. C'est pas de ce monde. C'est saint. C'est incomparable. Il arrivait quelque chose ici de surnaturel dans ce passage-là. Abraham, il est pas normal. Mais c'est la norme de Dieu, mais c'est pas selon la religion, la pensée, les voies humaines. Et ça, c'est parce que c'est le fruit de l'Esprit béni qui vit en nous. Dieu pourvoit toujours. Il a toujours pourvu. Il a toujours été Jéhovah Jiré. Et d'une façon infinie, il l'a pourvu Jésus. Et savez-vous quoi? Encore, dans le quotidien, jour après jour, Dieu pourvoit. Écoutez quelques versets à ce sujet-là. Lamentation. Voici ce que je veux repenser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est lui, celui qui vous a appelé et fidèle, c'est lui qui le fera. Wow! Ça, c'est Dieu. Donc ça, c'est la première réponse, la réponse immédiate. Très bonne réponse immédiate. Mais ensuite, on voit la réponse complète. Il n'y a pas juste quelque chose d'initial, ça continue, ça l'amène un point pour faire le tour de la question. Donc, la réponse complète, on a ça dans les versets qui suivent. Là, bon, vous connaissez l'histoire, il arrive pour offrir son fils, juste au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard, l'ange de l'Éternel, Jésus lui-même, arrête Abraham, puis dit « N'avance pas ta main sur l'enfant », verset 12, « Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Maintenant, regardez verset 13 et 14. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré, C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il y a tellement de choses qu'on pourrait regarder là-dedans. Je veux dire, c'est un type de Christ de tellement de façons. Puis c'est un sacrifice qui a été juste momentanément arrêté parce que plus tard, justement, est venu le sacrifice ultime. On pourrait parler beaucoup de ça, mais ce que je veux vraiment regarder au sujet de ce qu'on vient de lire, c'est que si on a la pleine et complète confiance, obéissance d'Abraham, qui lui a ouvert la porte pour jouir de la pleine provision. Donc, il a fait confiance à Dieu, et Dieu a pourvu. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est une préfiguration, hein, parce que je relis Hébreux 11, 19, « Il pensait que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. » Manquons pas la résurrection dans ce passage-là. Là. Il y a vraiment ici l'idée préfiguration de non seulement la mort, mais la résurrection de son fils. Puis lui, Abraham montait tout le long avec l'espérance de la résurrection. Okay? Parce que Christ, oui, il est mort, mais aussi il est ressuscité. Puis il a vaincu. Puis c'est l'ultime fils de la promesse qui a tout accompli. Donc, regardons ça un peu. Dieu, dans toute la vie de ses enfants, a tout pourvu. Un double tout. Dans la vie de tous ses enfants, il a tout pourvu. Mais est-ce que nous, on a tout pris? Est-ce qu'on prend tout en ce moment? Et là, j'aimerais développer un peu là-dessus, parce que quand on parle de réponse complète, on va parler de notre part d'ici. Connaissez-vous Jacques? Oh, là, j'ai un peu de pilage d'orteils à faire. Pilons sur nos orteils. Jacques 1, 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Mais qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ici, la façon de penser qui nous est présentée ou de douter, c'est l'essence de ce qu'on appelle l'obéissance partielle ou l'aveuglement spirituel qui s'ensuit. C'est un grand et réel danger et un obstacle dans la vie de chacun ici. On est tous sujets à tomber dans ces patterns de façon personnelle, familiale, en tant qu'Église. C'est la voie de l'orgueil et de l'incrédulité. Et l'idée fondamentale derrière ça, c'est la peur. Quand on a peur, on essaie de contrôler. On n'est pas certain que Dieu va faire son bout. Fait qu'on essaie de l'aider un peu. OK? C'est toute cette dynamique-là. C'est se garder une marge de manœuvre. Juste au cas où. OK? Ça, c'est irrésolu. Ça, selon le langage de Jacques, qui ne mange pas ses mots, ben, c'est pas viable, ça ne marche pas, puis Dieu, c'est pas quelque chose qu'il achète. On va prendre l'image d'Abraham ici. Imaginez-vous qu'il aurait voulu un peu manigancer, puis dire, ben, je vais faire un sacrifice qui est mieux que rien, mais qui n'est pas vraiment ce que Dieu a demandé. Je vais me déguiser en Isaac. Lui, je vais lui dire de rester là. Puis je vais prendre un autre serviteur. Whatever, menez-vous. Ou je vais en amener bien de l'argent. Je vais monter avec une grosse somme d'argent. Ou je vais faire comme mon ancêtre. Je vais en amener des fruits, comme Caïn a fait. C'est un peu c'est presque humoristique, parce qu'on va dire, ben voyons, ça ne marche pas. C'est pas ça que Dieu a demandé. Mais pourtant, nous, on pense que on peut quand même s'en tirer avec le même genre de raisonnement, le même genre de tactique. Ça fait évident ici avec Abraham, mais pensons que l'obéissance partielle, c'est ça. Bien, c'est mieux que rien. Bien, c'est pas si pire. Non, quand Dieu dit « Fais-moi confiance », il veut une confiance totale. C'est ça le point. C'est une question de confiance. Tu me fais-tu vraiment confiance? Ou tu as ta petite marge de manœuvre, tu as ta petite sortie de secours? C'est vraiment ça ici. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y avait pas d'autre option pour Abraham que de lui faire confiance. C'est la seule façon de plaire à Dieu. Comprenez, là. La Bible dit que c'est impossible de lui être agréable sans la foi. Il faut faire confiance à Dieu si on veut lui être agréable. C'est drôle parce que il y a toute une pensée qui dit, ben moi, je veux plaire à Dieu, donc je vais faire ci, puis je vais faire ça, OK? Qui ne sont pas nécessairement des mauvaises choses, mais qui ne sont pas la simple confiance en Dieu. Puis ça, pour Dieu, ça ne lui plaît pas. Parce que ce n'est pas empreint par la confiance. Si je veux plaire à Dieu, il faut que je fasse confiance. Ça va donner des choses que je vais faire. Mais ça commence par la confiance. Si ce n'est pas le fruit de la confiance, ça ne marche pas. Un peu comme un livre, les deux derniers mercredis, là, j'ai lu même les trois peut-être d'un livre que j'ai lu dernièrement. J'ai une couple d'affaires que j'ai sorti là-dedans qui sont une bénédiction pour mon cœur, puis j'espère pour vous aussi. Mais tu sais, il parle de deux salles, de deux chemins. Dans le fond, l'idée, ou de, tu sais, la chambre des bonnes intentions versus la chambre de la grâce. Ben, une première salle, c'est ben Dieu, je vais essayer de te plaire en faisant du mieux que je peux avec toutes mes bonnes intentions. C'est dans le fond la sanctification par les œuvres versus la salle de la grâce qui dit Dieu, je vais te faire confiance. Je vais te faire confiance avec mes faiblesses, je vais te faire confiance avec les luttes que j'ai eues pendant tellement longtemps, puis là, je vais arrêter d'essayer moi-même, puis Seigneur, OK, je vais te faire confiance au complet. C'est de ça que je parle. Je parle de faire confiance à Dieu sur les choses que ça fait des années qu'on a pu essayer de régler, puis qu'on ne marche jamais. Nos peurs, nos doutes, nos luttes avec le péché. Est-ce qu'on fait confiance à Dieu? Dieu, ce qu'il veut, c'est fais-moi confiance. Il n'y a pas besoin de notre aide. En fait, c'est plus de la nuisance, ce qu'on peut appeler de l'aide. C'est ça l'idée de la réponse complète. Dieu, je veux te faire confiance dans toutes les parties de ma vie. Oui, il y a la réponse initiale, la réponse immédiate. OK, Dieu, je veux te faire confiance. Mais après ça, Dieu va ratisser plus large dans notre vie. Puis là, ça va avoir des ramifications où est-ce que Dieu dit, OK, tu m'as fait confiance toi, t'es-tu prêt à me faire confiance là maintenant? Puis là. L'ensemble des domaines de ma vie. Et savez-vous quoi? Aucune d'entre elles n'est négociable. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est Seigneur. C'est lui qui dirige. Oh là là! C'est vraiment quelque chose de grand. Maintenant, regardez, et je vais terminer avec ça ce matin. Le verset 14, ça dit qu'Abraham a donné un nom au lieu. Puis le nom, c'est Yahvé Jiré, Jéhovah Jiré, l'Éternel pourvoira. Puis là, c'est pour ça qu'ils sont même appelés cette montagne. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et beaucoup disent que la même montagne, c'est à cet endroit précis que Jésus est allé mourir sur la croix. Mais je veux surtout regarder ici ce que Abraham a fait. Abraham a béni Dieu publiquement et ça lui a donné quelque chose de durable. Ça l'a été reconnu comme la montagne de la provision, la montagne sur laquelle Dieu pourvoit. Ça montre le caractère fidèle de Dieu à tous. Et là, je veux terminer avec cette pensée ce matin. As-tu des marqueurs? Puis là, je veux dire, pour les gens qui parlent anglais, ça se dit mieux, là, des landmarks, des bornes. Tu sais, ne déplace pas la borne. As-tu des endroits dans ta vie, des marqueurs, où est-ce que tu peux dire, là, où est-ce que, tu sais, dans ta vie, dans ta marche de la foi, où Dieu a laissé sa marque? Une marque indélébile, des moments qui ont défini, qui ont redéfini, des moments qui changent tout. Un point où Dieu t'a poussé, puis ça t'a fait renommer les choses, ça t'a fait redéfinir ta façon de voir les choses. Depuis ce moment-là, les choses ne sont plus pareilles. As-tu des moments, puis là, je ne parle pas d'espèce d'expérience bizarre, tout, mais est-ce que Dieu a marqué ta vie à des moments comme ça? Pensez-vous qu'Abraham, après Genèse 22, était le même? Pas en tout. Puis c'est pas à cause d'Abraham, c'est à cause de Dieu dans la vie d'Abraham. C'est Dieu qui a laissé sa marque. C'est de ça que je veux parler. Est-ce que Dieu... Puis là, évidemment, tout ça commence au salut. Quand on est sauvé, on n'est plus pareil. Pierre, qui avec toute la persécution qu'il avait, puis lui-même, tout ce qu'il vivait, quand Jésus a mené son vie vers les apôtres, puis il dit, « Bien, vous autres, est-ce que vous me quittez comme ceux-là qui sont en train de me quitter dans Jean 6? Où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ça, c'est le premier marqueur. Quand on a Jésus dans notre vie, je veux dire, on arrête de chercher, on ne peut pas aller ailleurs, on a trouvé la vie. Mais ça, c'est juste le commencement de l'aventure. Dieu n'a pas fini, là. Puis Dieu, il y a d'autres temps dans notre vie. Puis là, je ne vous dis pas d'essayer de courir après des expériences. Je parle de lorsqu'on fait confiance à Dieu, puis que Dieu nous dit, t'as vu, ça, là, ça montre ma fidélité, ma bonté envers toi. Tu vas pouvoir revenir là-dessus plus tard. Tu sais, on voit ça dans l'Ancien Testament, il faisait un monceau de pierre. Puis ah, regarde, Dieu nous a délivrés, il a fait ça. C'est un pattern qu'on voit dans la Bible. Dieu qui montre sa fidélité. As-tu des moments comme ça? Je te dis des marqueurs, des landmarks, des monceaux de pierre que Dieu a laissés dans ta vie. Ça commence en reconnaissant Jésus comme notre sauveur, le rencontrer, lui, la délivrance. Mais je dirais, et là, je vais prendre une autre montagne, parce qu'ici, on était avec la montagne du calvaire. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Es-tu monté sur le mont de la transfiguration? Puis là, vous voyez, c'est pas compliqué. Où ta perception de Dieu a changé. Dieu s'est révélé à toi, puis tu as un nouveau « wow » de Dieu. Pas que Dieu t'a montré une nouvelle doctrine, mais comme Hein, Dieu, tu m'aimes. Hein, Dieu, tu es fidèle en toutes choses. C'est ça que j'appelle le monde. Tu sais, quand Dieu montre des choses à notre cœur, où est-ce que. C'est un marqueur. On ne voit plus les choses de la même manière. Et ça, mes amis, c'est quelque chose à désirer, à rechercher, à simplement demander à Dieu. Et c'est puissant. C'est ça qui fait que la marche de la foi est si merveilleuse. C'est que Dieu, comme ici, là, il a rencontré son enfant. Vous savez pourquoi? C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard. C'était pas en bas de la montagne, dire « OK, c'est beau, je vois les intentions de ton cœur, lâche pas, t'as besoin de le faire. » Non, non, c'est allé loin, là. Il avait le couteau dans la main, là. Mais juste au bon moment, Dieu s'est présenté. Pas trop tard. Puis d'ailleurs, Abraham croyait que même s'il fallait, oui, Dieu aurait pu le ressusciter, mais juste au bon moment. Puis c'est ça que Dieu veut faire maintenant dans nos vies. Il veut se révéler à nous d'une façon personnelle et transformante à nos cœurs pour le connaître, pour l'apprécier. Comment est ta connaissance de Dieu en ce moment? Est-ce que il est un refuge? Est-ce qu'il est un repos? Est-ce qu'il est un réconfort? Ou aussi peut-être une réprimande pour nous sortir de notre torpeur puis de notre apathie. Dieu est tout ça à la fois. Donc voici ma dernière parole. Tu sais, une montagne, des fois c'est dur, c'est fatigant à monter. Mais laissons pas la montée nous décourager. Parce qu'on monte vers celui qui est notre récompense, vers celui qui pourvoit, vers le Dieu fidèle. Merci Seigneur que tu es le Dieu qui nous rencontre. Merci pour cette image. En fait, c'est une histoire qui porte une image parce que ce n'est pas des fables habilement conçues, c'est la vérité, c'est des faits historiques. Mais merci qu'elle est tellement riche dans ce qu'elle nous communique. Et Seigneur, on veut terminer en venant à toi, en nous disant, Seigneur, marque nos vies de façon indélébile. Marque nos vies où est-ce qu'on va toujours et encore s'émerveiller de toi et, Seigneur, trouver en toi notre refuge, notre paix, notre vie, tout ce dont on a besoin parce que tu es le Dieu qui pourvoit tout et dans chaque vie de tes enfants. Merci que tu as pourvu Jésus pour ce monde perdu. Merci qu'encore aujourd'hui, c'est la réponse. Même si le monde est complètement à la dérive et confus, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui sauve. Merci pour ce Seigneur. On te loue, on te bénit pour ce temps ce matin. On veut répondre à ce que tu nous as dit. On te le demande au nom de Jésus. Amen.